come get some.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 64e épisode de Games for You, le podcast des jeux mais pas que. Un épisode un peu particulier, c'est l'épisode de l'été, un épisode spécial pas que, moto et Harley Davidson Switchback. Il y avait autre chose de prévu au programme pour l'émission estivale, mais finalement, les choses de la vie ont fait que ce sera cet épisode-là. Alors c'est juste un épisode sur un pas que, pas de jeux vidéo ici, même si on va en parler un petit peu dans le que fais-tu, à quoi joues-tu. Mais voilà, on va parler moto et Harley. Allez hop, c'est parti pour ce gros dossier, moto et Harley Davidson Switchback. Après le petit son qui va bien, un démarrage de Harley Davidson Switchback, avec le petit son American. C'est parti, on attaque ce gros dossier, ce pas que, qui va être assez personnel, puisque je vais raconter aussi mon histoire de motard. Et puis on va commencer tout de suite. Alors moi la moto c'est une de mes grosses passions, même si ça s'est altéré, c'est un bien grand mot, mais ça a diminué un petit peu avec le temps, avec l'âge aussi. Il y a eu une époque de ma vie, je faisais aussi partie d'un club de motards. Bon bah là je reprends goût petit à petit à la moto avec ce qui s'est passé dernièrement là. Une vente et un achat de moto. Pourquoi la moto? Ça a commencé en fait à mes 4 ans, lorsque j'ai commencé à faire des balades derrière mon père. C'était une trail qu'il avait. C'était pas une grosse cylindrée, d'après mes souvenirs, c'était soit une 125 ou une 250, je sais même plus. Mais on baroudait, on faisait les cons dans les dunes, sur les bords de mer, les petites routes côtières par chez nous. Et c'était déjà le truc quoi. Ça m'avait déjà piqué, cette passion m'avait déjà piqué. Et ensuite j'ai toujours eu cet attrait pour la moto. Et déjà tout petit, il fallait que j'aie des jouets en moto, des Lego avec des Lego en moto, des choses comme ça. Et puis après, les choses de la vie ont fait que j'ai commencé à enfin en faire. Évidemment, c'était de la petite cylindrée, puisque j'avais pas encore le permis, donc je faisais déjà énormément de vélo. Et j'ai commencé à faire du cyclo, du 49.9 avec la fameuse Magnum Racing de chez MBK, puisque à l'époque, il y avait des mobilettes, ce qu'on appelait des mobilettes, il n'y avait pas que des scooters des merdes, il y avait ça, et déjà, je trouve que c'était assez taré, j'avais l'impression de... Alors pas que mon rêve devenait réalité, mais que déjà, on avait cette position particulière sur cette Magnum Racing XR, cette position assez agressive, on était vraiment penché vers l'avant. C'était vraiment une très très chouette mobilette. Et par contre, il n'y avait pas de sélecteur de vitesse, il suffisait juste d'accélérer et puis voilà, démarrage à kick, et vas-y que je te. Et peu de temps après, on avait l'émergence, en fait, la popularité du constructeur hispanique Derby, qui commençait à inonder le marché européen et français avec plein de modèles de Derby. Ça a été les plus belles motos pour les jeunes, hein, 49.9, que j'ai vu. Il y avait des Derby Phoenix, des Senda, Senda Air. C'était vraiment des motos cross ou même des trails. Et effectivement, celle qui m'avait le plus tapé dans l'œil à l'époque, c'était la fameuse Derby Phoenix, qui avait toute une grande, qui ressemblait à une Roadster. On aurait pu dire une Hornet, en fait, hein, une Honda Hornet ou même une Bandit. On avait déjà tout, en fait, de la petite moto. On avait le sélecteur, un démarrage à kick. On avait même un petit câble au niveau de la sellerie pour attacher ses casques. On avait le contour et tout. C'était vraiment une très très chouette moto, franchement. On avait déjà l'impression d'en faire, hein, alors qu'on n'avait pas le permis moto, voilà, juste... moi, j'ai pas besoin de passer le BSR, hein, à l'époque, mais voilà, on avait déjà l'impression d'en faire de la moto. En plus, une fois débridée, cette Derby, elle pouvait quand même avoisiner les 110-120 tranquillement, hein, c'était assez fou. C'est une petite moto vraiment assez péchue. Moi, ça a été la plus belle petite moto que j'ai eue, franchement... voilà, sans permis, évidemment. Ça, le fait de pouvoir en piloter, ça a accentué, en fait, mon objectif dès mes 18 ans de passer le permis moto pour vraiment passer aux choses sérieuses, quoi. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, je crois que c'était vers mes 17 ans, je me suis retrouvé passager sur une Ducati 911. C'est une sorte de missile sur deux roues, hein, hyper pas confortable pour le passager arrière. Voilà, c'était un ami, voilà, on avait fait un peu de bornes, on avait fait une centaine de bornes, je crois. Et c'était assez taré, quoi. C'était, pour moi, c'était déjà une partie du rêve qui commençait à se réaliser. Même sans piloter, c'était assez taré d'être à bord de cette machine. Une machine emblématique, en plus, la Ducati 911. Mais vraiment une position sportive, donc vraiment pas agréable à l'arrière, mais en même temps avec énormément de sensations. C'était assez taré, on se sentait vraiment propulsé. Et puis, sachant que un an après, j'allais passer le permis, donc j'étais vraiment très très excité que, mon objectif se rapprochait, et je me disais, ah cool, petit à petit, je vais peut-être pouvoir un jour conduire ce genre d'engin. Je me souviens qu'elle elle était rouge, je sais même plus si je pense qu'elle était d'origine, mais c'était impressionnant, quoi. La patate qu'elle avait, cette moto, c'était fou. Et vient le jour de mes 18 ans, où peu de temps après, je commençais à faire le permis moto. Un permis moto bien 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 roulou d'ailleurs, ça m'a presque dégoûté de la moto. J'avais commencé à faire des leçons avec un premier centre de conduite, hein, une auto-école, et le moniteur était complètement allumé et un peu farci sur les bords, avec cette histoire de plateau là, d'être chronométré. J'ai trouvé ça complètement débile. Enfin voilà, moi je suis pas, c'est pas pour faire du circuit, en fait, à la base, quoi. Donc je découvrais ce monde là. C'était un peu chelou. Le moniteur, franchement, il m'a grave saoulé. Du coup, j'ai arrêté le permis en cours et je l'ai repris quelques mois plus tard dans une autre auto-école. Le moniteur était bien, bien mieux. Et finalement, j'ai fini par obtenir ce permis avec l'épreuve de plateau et conduite. Plateau, c'était assez stressant. Moi, je sais que j'ai dû me reprendre deux fois. Parce que j'ai un de mes calepiers arrière, ou je sais même plus si c'était mon calepier arrière, ou non, je crois que c'était mon calepier pilote, quoi, qui avait touché un plot, donc c'était éliminatoire. Au final, j'ai eu le plateau en deux fois. J'étais un peu dégoûté, parce que pour moi, le plateau, c'est une épreuve débile qui est pour moi hors du temps. Le fait d'être chronométré sur des parcours, je trouve ça complètement con. Et par contre, la conduite en ville, il n'y a eu aucun problème, donc voilà. Donc j'ai eu le permis en poche et puis j'ai pu commencer avec ma première moto, une 600 Bandit. Pourquoi une Bandit? Alors, à l'époque, mes copains et tout, on était très concentrés sur les Honda Hornet, quoi, le mid-size Roadster. C'était surtout ça qui nous faisait vibrer. Moi, j'ai jamais été trop fan. Je voulais plutôt une petite bulle à l'avant, en fait. Et puis plutôt, bah, pourquoi pas Suzuki. Même au niveau tarifaire, c'était un peu plus bas. Et puis c'était parti, quoi. Parti sur un 600 Bandit. Et ça a été ma première vraie moto à avoir. Moto que j'ai vraiment adoré. C'est comme ça que j'ai commencé à apprendre à piloter, à doser le frein avant et le frein arrière. Voilà, c'était vraiment très belle moto. J'avais l'impression d'être sur une grosse Phoenix au final, avec le carénage, enfin le parevent en plus. Voilà, il y avait juste un truc qui me faisait un peu chier, c'était que, bah, comme j'alternais avec du duo et du mono, on avait vraiment le keychain qui se détendait assez fréquemment, et c'était vraiment chiant, quoi. Fallait toujours entretenir ce putain de keychain, et c'était vraiment relou, quoi. J'avais toujours, alors je sais plus, j'avais du matos dans le sac à dos pour retendre la chaîne s'il fallait. Enfin, c'était un peu chiant. Il y avait juste ce côté-là qui m'a un peu gavé. Mais ça, d'ailleurs, j'en avais déjà parlé dans l'épisode 32 que j'avais fait en solo aussi en parlant de moto. Bah, là, on avait parlé d'un jeu vidéo. C'était Road Redemption, je crois. Donc voilà, si vous mettez, voilà, petit aparté, si cet épisode vous plaît, bah, je vous encourage à écouter l'épisode 32, hein, de Games for You. C'est un peu la même chose où là je donnais plutôt des conseils, alors pas forcément de pilotage, mais des conseils pour les nouveaux acquéreurs de moto, ou même des gens qui seraient intéressés par en faire. Donc voilà, aparté terminé. Donc voilà, la 600 Bandit, bah, je l'ai eu quand même quelques pas mal de temps. J'ai fait beaucoup de bornes avec. C'est une moto que j'ai bien aimée. Et puis, après on bosse, hein, on a un peu plus de thunes, et du coup, bah, on réfléchit à peut-être passer à autre chose, peut-être passer à un autre type de moto. Et bah là, à cette époque-là, j'hésitais. C'était en 2009. Il y avait une moto, alors, que je trouve encore superbe. Pour moi, c'est une des plus belles motos que je connaisse. C'est la GSX-R 1300 à Yabusa. J'adore cette moto, je la trouve magnifique. Au niveau du design et tout, c'est vraiment une sorte de faucon, quoi. Elle a été faite comme ça, c'est une sorte de missile. C'est une moto magnifique, mais que je sais que je piloterai jamais, parce que c'est pas mon kiff non plus, quoi. C'est pas ce que je recherche en moto. On a quand même cette façon d'être penché vers l'avant sur le réservoir, prêt à attaquer dans les virages. Donc là, à mon avis, je serai jamais à 50 ou à 80 km heure, quoi. Je serai toujours hors limite. C'est pas une moto qui est enclin à la balade, mais en termes de design et juste pour l'objet, je la trouve vraiment merveilleuse, cette moto. Et à l'époque, j'ai donc au garage où j'avais déjà acheté ma première moto, la 600 Bandit, bah, j'allais la mettre en dépôt-vente là-bas, et puis j'hésitais justement pour une Hayabusa, ou bah, continuer finalement sur une Bandit, mais un peu plus grosse, une 1250 Bandit S. Alors le S, pourquoi? Parce que, bah, la version parvent, quoi, voilà. Et je me suis dit, je reste quand même encore jeune conducteur, je vais quand même demander à mon assurance, voir si il sera enclin à m'assurer pour une GSX-R 1300 Hayabusa. Et à l'époque, j'avais pas encore 30 ans, il m'avait dit niette. Alors moi, j'ai dit, mais c'est à moitié la discrimination, donc j'ai le droit d'acheter un véhicule, mais j'ai pas le droit de l'assurer ni de rouler avec, en fait. Alors c'est pourquoi, c'est quoi le délire là? Alors, on m'a expliqué, en fait, que donc cette assurance là, mon assurance, c'est selon le ratio, en fait, hein, type de véhicule et accident sur la route. Effectivement, bah, la Yabusa, même si Suzuki essaie de la mettre dans la catégorie, alors routière, bah, pour eux c'était plutôt catégorie sportive, et du coup, bah, déjà cette catégorie-là, ça tilte un petit peu. Et là, au terme du ratio, type de véhicule immatriculé et accident, bah, c'était pas top top, quoi. Donc il voulait pas m'assurer. Et en plus, il y avait les tranches d'âge qui jouaient là-dedans. Il m'a dit que c'était un peu mieux sur la tranche d'âge 30, 40, 45 ans. Et du coup, c'est pour ça que j'avais pas 30 ans à l'époque. Il voulait pas m'assurer, hein, les gros cochons. Bon, après, c'est pas grave, je me suis un peu renseigné, en fait, sur les tarifs des consommables, notamment le gros pneu arrière. Et effectivement, c'était assez cher. Après, c'était pareil. Enfin, c'est, on allait à la limite de la grosse sportive, donc bon, c'était un peu too much en fait finalement au tarif de l'entretien. Les pneus qui s'usaient assez vite, encore ce putain de kitchen qui aurait été chiant. Et finalement, j'ai joué encore une fois la carte de la sagesse parce que je suis bien trop sage et je suis reparti avec une 1250 bandit. Le kitchen, je m'étais renseigné. C'était mieux que la suite sur la 600 Bandit. D'ailleurs, j'ai jamais eu de problème avec ce kitchen de 1250. Et bah voilà, quoi dire sur la 1250 Bandit S. Et ben, c'est-à-dire que j'étais vraiment en terrain connu. J'ai fait un peu plus de transformation, de modification sur cette deuxième Suzuki par rapport à la première. J'avais fait l'ajout d'un top case. J'avais changé le pot d'origine. C'était un pot Devil carbone, tout mat, vraiment magnifique, avec un son assez sourd, assez rock, que j'aimais beaucoup. J'ai mis des top blocks à l'avant, au cas où que la moto tombe, pour protéger le bas moteur. Qu'est-ce que j'ai installé d'autre? J'ai foutu des poignées chauffantes aussi dessus, et une gel confort gélifiée personnalisée. Voilà les modifs. Je me tâtais à un moment à l'époque de la mettre vraiment en grand touring, hein, c'est-à-dire il manquait juste en fait finalement l'ajout de sacoche cavalière rigide. Hein, et puis voilà, on avait la moto équipée. Par contre, on retrouvait encore, malgré l'ajout de la selle confort, j'ai retrouvé encore le travers de ces motos-là, de ces roadsters routières. C'est toujours cette selle qui... On a beau essayer de la rendre confortable, au bout de 30-40 bornes, on a vraiment mal au cul, quoi. Ça invite au voyage, mais en même temps, c'est tellement puissant sur la route qu'on est tout le temps hors limite, quoi. On n'est pas complètement avancé sur le réservoir, mais on a envie d'attaquer aussi un peu les virages. Et du coup, même si on garde un peu le dos droit, il y a tellement de répondants au niveau de la poignée des gaz qu'on a tout le temps envie d'avoiner. Et puis, bah, même si on a envie de voyager, bah, y a la selle qui nous rappelle que, bah, ouais, mais au bout d'un moment, mon gars, va falloir que tu t'arrêtes sur le bord de la route parce que tu auras mal au cul. Donc, ça a été une magnifique moto malgré tout. J'ai quand même fait quelques longs parcours. Pas énormément non plus, mais voilà, c'est une moto avec laquelle je me suis bien amusé. J'ai eu aussi mes grosses frayeurs avec cette moto, comme elle était 1250, c'était assez puissant. J'ai souvent chassé de l'arrière en fait, avec l'entraînement du pneu arrière. J'ai glissé sur des pavés, j'ai glissé sous la flotte, je me suis retrouvé en crabe une fois sur la route en essayant de freiner sur un sol mouillé. Est-ce que j'étais inconscient à cette époque-là? Je sais pas trop. J'ai roulé sous la neige, sous du verglas. Bon, mais je commençais vraiment à me sentir aussi en sécurité. Après, ce que j'aimais pas trop en fait, c'est finalement la position à l'arrêt. On est quand même sur une sellerie assez haute. On est obligé de tenir sur la pointe des pieds lorsqu'on est vraiment droit, à des stops, à des CD de passage. Après, si on veut avoir un meilleur maintien, il faut incliner légèrement la moto de gauche à droite pour avoir vraiment le pied à plat au sol et vraiment avoir une stature vraiment posée et rassurante. Et voilà, il y avait que ça qui me gavait un petit peu. Et puis, mais bon, finalement, c'est une moto que j'ai vraiment beaucoup aimée. C'est à cette époque-là que j'ai fait partie d'un club de motards pas très loin de chez moi. Bon, après, c'était un peu étrange, hein. C'était plus du job art team qu'autre chose, quoi. Il y avait un peu les farciers du dimanche qui, c'était le seul jour de la semaine où ils sortaient, alors ils avouaient un peu trop. Bon, c'était pas ce que je souhaitais en termes de conduite. Moi, ce que je souhaitais, c'était plutôt de la promenade au long cours. Et déjà, à ce moment-là, je commençais à me lasser un petit peu, en fait. C'est-à-dire que... Voilà, je sais ce que c'est d'avoir un gros moteur, de pouvoir doubler quand on veut, je sais ce que c'est d'aller à 220 voire 240 km/h, même si c'est inconscient, voilà, c'est bon. J'avais eu ma dose en fait de sensations fortes avec cette machine. J'étais prêt, en fait, je me sentais prêt à passer à autre chose, à passer à quelque chose de différent. J'ai toujours regardé du coin de l'œil en fait les Harley Davidson que je croisais sur la route. Pour moi, c'était quelque chose de complètement inaccessible. Après, c'est un univers que je ne connaissais pas encore à l'époque. Pour moi, c'était des motos très lourdes, très chères, et voilà. Et en fait, les choses de la vie ont fait que j'ai été à des salons de la moto, hein, pas très loin de chez moi, et j'ai été convié à des essais. Alors, il y avait les essais portes ouvertes. Porte ouverte Kawaseki, en fait, on avait une petite fiche où on choisissait le type de moto que l'on voulait essayer. Et bah, j'ai commencé par ça. J'ai commencé par ça pour faire un petit essai Kawa. Après, j'ai jamais aimé les Kawasaki. Franchement, il n'y a aucune moto qui me plaît dans leur modèle. Après, c'est des. Si, à la rigueur, il y a la rétro là. Il y a la W800 que je trouve sympa, qui fait un peu néo-rétro, que j'aime beaucoup. Et puis bah, la VN900. Alors, la VN900, c'est la moto que j'ai choisie. Que j'ai choisi à l'essai. C'est un custom japonais. Et c'est pour vous dire qu'à ce moment-là, j'avais envie de quelque chose de différent. Pour moi, le type roadster sportif, tout ça, c'était. Voilà, c'était ça allait être derrière moi. Je voulais essayer quelque chose de différent. Donc, j'ai fait cet essai. C'était un samedi après-midi. C'était prévu à 15h, je crois. Et en fait, il y avait tout un circuit à faire, il y avait quelqu'un en tête de file, voilà, fallait le suivre. C'était une petite balade sur, je sais plus, ça durait une demi-heure, je crois, un truc comme ça. Et donc j'ai commencé à piloter cette machine, la VN900, qui était un peu en mode toureur, c'est-à-dire qu'on avait des sacoches rigides à l'arrière, des sacoches cavalières rigides, et on avait le paravent qui va bien. Alors, ça a été un peu bizarre. C'est un essai qui était assez étrange. C'est-à-dire que j'ai bien aimé la position. Déjà, il faut sur un custom, la position est tellement différente. On est plus, on a plus le corps relâché vers l'arrière. On est moins vers l'avant, vers le réservoir, prêt à attaquer les courbes, les virages. On est plus relâché, plus détendu. La position est très différente. Pareil, on a les pieds qui ne sont pas en commande médiane, mais plutôt en commande ce qu'on appelle avancée, c'est-à-dire les pieds vers l'avant. Et voilà, fallait déjà que je réapprenne à piloter finalement lors de cet essai. Et j'ai trouvé la position vraiment cool en fait. C'était vers. Je savais qu'à ce moment-là, c'était vers ça que j'allais aller. Et voilà, c'était clair, net et précis. C'était ça. Par contre, le bémol, c'était le moteur. Franchement, le moteur de la VN900 donc, que j'ai essayé à l'époque, c'était en 2012, si je me souviens bien, 2012-2013, je sais plus. Bah, c'était vraiment nul, quoi. C'était insipide au possible, c'était un moteur qui bougeait pas, qui vivait pas, qui ne vibrait pas. C'était bah, évidemment tous les motos d'essai Kawasaki étaient d'origine déjà, donc elles étaient un petit peu amputées. Et vraiment, c'était triste, quoi. C'était un moteur, mais très linéaire, qui montait pas. J'ai l'impression de me traîner comme un vieux rat crevé sur la route. C'était vraiment chiant, quoi. Après, oui, j'ai eu le temps d'observer le paysage, puisque j'étais aussi là pour la balade, hein, vu le type de machine. Mais par contre, c'était un peu relou, quoi. Donc, en fait, c'était un essai en demi-teinte. Alors oui, j'étais... voilà, j'étais maintenant sûr de moi que c'était vers ça que je voulais aller, vers le custom. Par contre, en termes de moteur, c'était autre chose qu'il me fallait, quoi. C'est quitte à rouler pépère, un peu promenade et tout, machin, mais autant le faire de façon authentique avec un vrai moteur. Donc, ce qui s'est passé, c'est que... au salon de la moto que j'avais passé, j'avais vu deux invites. J'avais vu cette invite de Kawa et j'avais vu une invite d'Harley Davidson. Alors je suis allé du côté de... Bah, dans le Finistère, à Quimper, essayer un modèle. Et comme je ne connaissais absolument pas la marque, j'ai choisi bah, le gros modèle emblématique, enfin emblématique pour moi, hein, dans mon inconscient, c'était vraiment le roi de la route, quoi, le Road King. Donc j'ai fait un essai du Road King, une moto extrêmement lourde, qui avoisine presque les 400 kilos. Une fois qu'elle est mise en mode toureur, ça a été très très étrange cet essai. Alors déjà on m'a fusillé du regard quand je suis arrivé avec ma 1250 bandit à la concession pour faire l'essai. Après j'ai expliqué que oui, enfin j'étais là juste pour un essai relais, du coup bon ça s'est un peu calmé, les gens étaient un peu plus cool. Mais voilà, déjà tu sentais un peu le côté voilà un peu particulier d'Harley, mais bon voilà. Alors bon, la routine m'attendait, elle était prête à partir et ça a été particulier comme essai. Moi, la synthèse de cet essai, c'est ça, c'est j'avais l'impression de piloter un bus sur deux roues, quoi. C'était tellement mastoc, tellement large, tout était gros sur cette machine, les énormes repose-pieds, l'énorme moteur. Voilà, c'était particulier. C'est là que je me suis dit, Bon, c'est vrai que même si c'est d'origine, ça vit un peu plus. On sent que le moteur, il vit un peu plus. Donc voilà, déjà ça a l'air d'être cool. Putain, il y a de la puissance et tout sous la poignée. J'étais assez surpris lors de cet essai. Alors c'était pas le moteur 103, ça devait être le moteur 96 que j'ai essayé. Bon bah c'était plutôt pas mal. Par contre, j'ai pas du tout été rassuré sur cette machine. C'est une machine qui est très agréable sur des lignes droites. Et par contre, après, dès qu'on commence à essayer de manœuvrer avec, on est sur un cadre de Softail, hein, donc bon, c'est particulier. Bah, les CD de passage, les stops, les choses comme ça, bah, c'est un peu de jazz, quoi. Parce qu'on a tout le poids de la machine qui arrive d'un coup lorsqu'on est à l'arrêt, et on n'est vraiment pas stable. En plus, cette machine, je l'ai essayée en duo d'un coup, dès le début, donc c'était assez chaud. Donc voilà, donc j'avais un essai de 20 minutes, je crois, un truc comme ça. Donc je suis revenu après la concession. J'essaie de me stationner comme j'ai pu en essayant de manier les plus de 350 kilos de la bête. C'était assez compliqué. Et là, je me suis dit, ouais, non, non, je suis pas prêt pour ça en fait. Finalement, j'ai envie de rouler en custom, mais est-ce que je suis encore prêt pour ce type de machine américaine? Je ne sais pas. Donc je suis resté avec ma 1250 Bandit, voilà, encore quelques mois de très long, voire même une année d'ailleurs avec. Et j'avais quand même cette histoire d'Harley Davidson quelque part dans ma tête. Et finalement, j'avais reçu une publicité, comme j'avais participé à cet essai, avec les nouveaux modèles de 2014, je crois. 2013 ou 2014, je sais plus. Enfin, ça devait être ça. Les nouveaux modèles et tout. Et puis là, je prenais mon temps et tout. Et je me suis dit, c'est con parce que je suis prêt en fait à passer à autre chose. Et ben, je vais faire l'inverse. J'avais pris la plus grosse Harley à l'essai. Et ben, je vais prendre la plus fine. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai demandé à un autre essai, mais avec la plus petite Harley possible. Et c'était une Sportster. C'était une 883 Iron. Donc, changement de destination, ce n'était plus à Quimper, mais dans le pays rennais, vers la Mézière, où j'ai été faire mon tour d'Iron 883. Alors, déjà, j'étais très rassuré lors de cet essai. La moto est beaucoup plus légère. On s'approche de poids de machine japonaise. On est vers les 260-270 kilos. Même à l'arrêt et tout, c'est rassurant. On a vraiment le pied bien au sol puisque le moteur n'est pas énorme. Donc, au niveau de la largeur et tout, c'est pas mal. C'est rassurant. C'est assez fun à conduire. Moi, j'ai trouvé l'essai vraiment très concluant. Il manquait juste en fait le moteur, quoi. Je sentais que le moteur était là. Il était assez vivant. Il était malicieux. Il manquait la sonorité. Il manquait les vibrations qui allaient avec. Parce que bah, lors de cet essai-là, il y avait d'autres. Bah, clients hein, qui étaient là en Harley, voilà, faire un tour à la concession, et voilà, j'ai écouté leur moteur et tout ça, je me suis dit, mais putain, mais c'est ça une Harley, pourquoi on est en train de se faire chier avec des trucs d'origine, des bruits d'aspirateur? Et là, j'ai dit à, comment dire, au conseiller vendeur, là, qui m'avait accompagné pour ce tour d'essai, je lui ai dit, bah, écoute, que je suis prêt pour partir pour cette machine. Je pense que c'est celle-là qu'il me faut. Voilà, pour commencer. Par contre, le son, il est dégueulasse, quoi. C'est juste pas possible. Le moteur, on sent qu'il est présent, mais il est étouffé. Et c'est pas possible. Il me dit, bah oui, il est étouffé à cause des normes européennes, machin truc. Alors, c'était la norme Euro 3 à l'époque. Et il m'a dit, bah attends, justement, on en a une à l'atelier qui est modifiée, hein, qui est ce qu'on appelle qui est stagiérisée, qui est en stage 1, c'est-à-dire que la cartographie est refaite, le filtre à air aussi, et les pots, en fait, les pots d'origine européenne sont virés pour vraiment les pots américains. Et là, il m'a fait écouter, il m'a fait même monter dessus sans que j'aille faire un tour, et là, j'ai vraiment ressenti le truc, j'ai vraiment ressenti ce moteur, en fait, ce moteur très particulier d'Harley Davidson, le moteur animal et même viscéral vraiment qui te fait vibrer. Et voilà. Et j'avais l'impression de pas être sur la même machine, quoi. Et là, je me suis dit, bah, allez, banco, c'est parti, on part pour l'Iron. Et du coup, voilà, avec le devis qui va bien, avec la stagiairisation obligatoire, quoi. Parce que moi, je lui dis, moi, il est hors de question que je pilote un aspirateur, quoi. Moi, je veux une moto qui vit, qui est présente. Mais bon, voilà. Donc ce qui s'est passé que j'ai été, c'était en 2015, je me suis retrouvé possesseur d'une Sportster, hein, d'une Ayron 883. Et puis c'était le au revoir à la bandille. Mais ce qui est drôle, et c'est pourquoi que j'enregistre cet épisode aujourd'hui, c'est que entre les essais chez Kawa, les essais Harley et tout, j'avais eu donc une brochure avec les nouveautés. Et donc j'avais épluché un peu le catalogue. Et j'avais. En fait, il y a une moto qui m'avait vraiment flashé. Enfin voilà, c'était. Pour moi, c'était l'objectif final, en fait. C'était une moto, Harley Davidson, dans la gamme Dyna. La gamme Dyna, en fait, elle a maintenant disparu. Elle a été mélangée avec la gamme Softail. La gamme Dyna chez Harley, c'est un peu la gamme sport, en fait, finalement, de leur moto. Et il y avait une moto qui m'avait un peu tapé dans l'œil, parce qu'elle correspondait finalement à ma philosophie de moto, et c'était la Harley Davidson Switchback. Alors pourquoi? Eh bien parce que c'était une moto qui avait la faculté en fait de pouvoir passer d'un mode cruiser à un mode GT. C'est-à-dire qu'on avait des valises escamotables à l'arrière, avec la clé magique d'Harley Davidson qu'on pouvait virer, et on avait aussi le paravent qu'on pouvait virer. Et pour moi, c'était vraiment cette moto qui m'a toujours attiré chez Harley. Mais à l'époque, elle était inaccessible pour moi, puisqu'on n'était vraiment pas sur le même tarif. Hein. En 2015, une Ayron 883 coûtait 8 090 €. Et la Harley Davidson Dyna Switchback coûtait 17 300 € à peu près. Donc ça, c'est toujours des tarifs de moto de stock, c'est-à-dire sans les transformations après, sans les ajouts, sans la stagiarisation, un stage 1, cartographie moteur, etc., les nouveaux pots, tout ça, ça peut vite chiffrer. Et donc voilà, elle a toujours été là, cette moto, dans ma tête, quelque part. Comme quoi, c'était ce que je voulais, quoi. C'était mon objectif final, mais je me sentais pas prêt encore à l'époque pour piloter cet engin, puisque par exemple d'une Ayron 883 de 250, 260 kg, on passait avec une Switchback à 330 kg tout plein fait. Donc voilà, je me sentais pas non plus apte à passer le câble là-dessus. Et puis même de toute façon, question tarifaire à l'époque, ça était tout simplement pas possible. Donc j'ai fait de l'Ayron depuis 2015 jusqu'à maintenant. Pour moi, ça a été l'une des meilleures motos que j'ai eu. Après, ça reste une petite Harley. On est plutôt sur une moto taille de guêpe qui est vraiment faite pour du solo d'abord. Étrangement, je l'ai customisée en duo en fait, pour qu'elle soit vivable en duo, pour faire pas mal de longs cours. Ça roule, hein, voilà. Après, on sent que ça talonne, on sent que les suspensions, c'est un peu raide, c'est un peu juste. C'est pas une tenue de route exemplaire. Après, faut oublier l'idée de doubler des voitures, franchement, ou alors faut vraiment anticiper à bloc. Pareil pour les distances de freinage, ça demande énormément d'anticipation. Après, en mono, c'est vraiment très, très agréable, en solo, quoi. C'est une moto qui a beaucoup de charme. Le petit souci, finalement, le plus gros défaut que moi je vais trouver à cette moto, c'est la taille de sa batterie. Finalement, les moteurs Harley Davidson demandent énormément d'énergie en fait au démarrage, énormément d'électricité, et il faut que la batterie soit au top de sa forme pour démarrer le moteur. Malheureusement, sur les Sportster qui ont un cadre assez fin, qui n'est pas énorme, la batterie est vraiment très petite, casée sous la selle, et moi c'est ça un peu le problème finalement. Ça a été le gros défaut que je lui ai trouvé à cette moto, c'est sa petite batterie qui doit être en permanence branchée sous Optimate, pour faire un maintien de charge. Voilà, c'était ça pour moi le plus gros défaut. Ça c'est une question de goût, mais une Sportster est assez dépouillée en fait. On a un petit réservoir, le réservoir Peanut, ce qui fait qu'on voit tout un passage de câble en fait passer juste en dessous du réservoir. On n'a pas de cache-câble. C'est une moto où tout est apparent en fait. Faut aimer. Après, ça reste très brut, décoffrage, très authentique. Bref, moi, l'Ayron, je me suis énormément amusé avec. Je crois que c'est la moto avec laquelle j'ai fait le plus de kilomètres. Sur la 600 Bandit, j'ai dû faire 14-15 000 bornes. La 1250 Bandit, j'en ai fait 19 000. Et l'Ayron, j'en ai fait 25 000. Voilà, j'ai fait 25 000 kilomètres en Ayron. Et bon, bah après, j'ai quand même fait des devis à droite à gauche pour des nouvelles Harley, des choses comme ça. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec toutes ces normes à la con qui castrent hein, au final les motos américaines, on se retrouve avec des moteurs certes puissants mais assez insipides. J'ai essayé entre-temps, par exemple, une Sport Glide. J'ai beaucoup aimé cette moto. J'avais déposé l'Ayron 883 donc à la concession du côté de Rennes. C'était pourquoi? Je sais même plus. C'était un entretien annuel classique. Et entre-temps, j'avais demandé un essai de Sport Glide. Et j'ai trouvé ça plutôt bien, la position était vraiment cool. Sur l'Ayron, on a vraiment une posture classique, c'est-à-dire un dos droit. On a des commandes médianes. Et là, la Sport Glide, on avait vraiment ce côté custom pied en avant et les commandes avancées. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt bien. C'est la première fois aussi que je pilotais une moto qui avait un régulateur de vitesse. Ouais, donc j'ai beaucoup aimé cet essai de Sport Glide, même au niveau du poids et tout, on était bien quoi. En fait, ça se rapprochait de mon objectif de la Switchback. Et après, bon, il y a encore le coup du truc d'origine, quoi, du moteur d'origine. Et j'ai trouvé que le moteur était moins vibrant, mais bon, tout ça, c'est à cause des avancées, hein. Quand j'ai essayé cette moto, c'était en 2019. Donc on n'était plus avec les moteurs 96 et 103, qui sont encore des moteurs vraiment très très authentiques, qui plaient beaucoup aux puristes harleyistes. Donc là voilà, on était sur du 114 je crois, 114, 117, 117 je suis pas sûr, mais sur du moteur 114. Et du coup bah c'était un peu plus, alors pas aseptisé, c'est des moteurs qui sont très péchus, mais qui voilà, qui vivent moins je trouve. Bon après j'ai bien aimé cet essai. Et puis du coup, bon, on a continué à rouler un peu. Après 2020, bah, c'était quoi? C'était la pandémie, donc bof, c'était assez étrange. Je faisais des petites sorties par intermittence en Ayron pour aller chercher des vivres. Mais voilà, j'ai pas roulé beaucoup. Je trouve qu'à partir de 2020, bah, on a roulé un peu moins, Marie et moi. Et puis, bah, moi, je commençais à me lasser un petit peu de l'Ayron, notamment avec ses caprices de batterie. Mais bon, je persistais à garder cette machine parce que tous les autres que j'essayais ou celles que je voyais sortir chez Harley, bah, c'était plus vraiment ça que je recherchais. Il y a eu quand même bah, la descendante de la Switchback, c'est la Sport Glide. On a eu aussi la D, comment dire, la petite sœur de la moto que pilote Jack Steller dans la série Sons of Anarchy, c'était la Lowrider ST. Bah celle-là, je suis monté dessus aussi. C'est une très très belle machine. Voilà, mais par contre, c'est toujours aussi cher, quoi. Parce que là, on dépasse les 20 000 euros maintenant chez Harley, hein, puisqu'elles prennent 500 voire 600 euros chaque année dans la gueule. Voilà, depuis 2020, en fait, hein. Alors, c'est... J'avais lu un documentaire là-dessus, j'avais vu ça sur YouTube, quelqu'un qui explique bien pourquoi les motos américaines prennent cher tous les ans. Alors c'est un mélange du coût des matériaux, il y a aussi les normes européennes, parce que là on est arrivé à la norme Euro 6, bah, qui prennent cher, hein, qui font bien chier, parce qu'il faut tout le temps essayer de limiter voilà, les particules et compagnie, donc faut encore des plus gros moteurs, encore un peu plus castrés, machin, plus performants et tout sur des trucs, mais du coup ça enlève le côté authentique. Donc bon, bon an mal an, j'ai continué à piloter l'Ayron avec ses caprices de batterie. Mais j'étais un peu dégoûté en fait des nouvelles Harley parce que c'est plus ce côté-là que j'aimais, c'est plus ce côté vraiment authentique. Et puis bah, il y avait toujours dans un coin de ma tête cette fameuse Switchback. Et puis bah, au final, c'est toujours pareil. La vie, c'est un peu les montagnes russes, hein. Il y a des hauts et des bas. Et il s'est passé que bah, j'ai eu connaissance d'un atelier moto de réparation et qui propose aussi de la dépôt-vente, qui a été ouvert en 2020, pas très loin de chez moi, donc à une trente-quarantaine de bornes. Et du coup, j'y suis allé comme ça pour commander des pièces à la base, hein, parce que j'avais ma barrette de LED de l'Ayron qui avait cramé, c'est-à-dire que mon indicateur de clignotant n'affichait plus sur mon compteur. mais ça s'affichait à l'extérieur sur la machine hein, pour les autres usagers. Donc voilà, bon après c'était un peu juste chiant quoi, je savais pas quand est-ce que j'actionnais le clignotant, si vraiment quand j'appuyais il était actif ou pas, ou alors il fallait que je soulève la tête pour voir si effectivement il fonctionnait sur mes clignotants ou pas, mais pas sur mon tableau de bord. Bon voilà, j'avais juste à changer, et puis les poignées qui, le caoutchouc de base d'origine, hein, qui commençait avec le temps un peu à partir en cacahuète. Donc voilà, j'ai juste pris rendez-vous avec... avec cet atelier, avec Kraken Motorcycle à Lannion, voilà, pour changer ça, pour changer les poignées et la barrette de LED. Et en y allant cette année, en juin, déposer l'Iron pour ses menus réparations, eh ben il s'est passé quelque chose. C'est que déjà de l'extérieur de la vitrine, mon regard s'est tourné sur la droite et j'ai été comme happé vers une machine. Et donc avec les reflets et tout, j'étais pas sûr de moi, et je me suis empressé d'aller à l'intérieur, et là j'en ai pas cru mes yeux, j'ai revu une Harley Davidson Dyna FLD Switchback qui était là en dépôt vente, et qui me regardait avec son gros phare rond, et là je me suis dit mais c'est complémentaire, parce que la Harley Switchback en fait elle a été commercialisée de 2012 à 2017 en fait sur notre sol, sur notre territoire français. Je sais pas si elle continue d'être distribuée aux États-Unis. L'Iron a terminé sa carrière en 2021 aussi, c'est pareil. Et là, je retrouvais cette moto qui était toujours là, quelque part, dans un coin de ma tête. Je suis allé voir un peu ce qu'elle proposait et elle avait que 18 000 km pour année 2015, quoi. Elle datait de la même époque que mon Iron. Et j'étais vraiment happé par cette machine. En plus, elle était déjà customisée, elle avait déjà son stage 1, elle avait un monstrueux filtre à air, elle avait plein de petites notes custom à droite à gauche, au niveau du carter chromé, toujours avec des logos Baren Skulls un peu partout, les petites têtes de mort enflammées de chez Harley, il y en avait un peu partout, mais pas de façon trop Jackie Boy. Et j'ai trouvé, enfin voilà, j'étais sous le charme. J'ai quand même récupéré ma Harley, bien que je sois resté une heure à regarder la Switchback. Et puis, j'ai laissé passer des semaines, et c'était de pire en pire. J'arrivais plus trop à dormir. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai demandé un essai. J'ai demandé un essai de la Switchback. Et c'était un samedi après-midi assez couvert, hein, comme dans notre région du globe, c'est souvent le cas. J'ai essayé cette fameuse moto, qui était un peu mon objectif moto, toujours dans un coin de ma tête. Et là, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai pris la route, que j'ai fait cet essai. J'ai pas osé vraiment monter dans les tours avec. Et je me souvenais encore cette appréhension road king, voilà, très très lourd et tout. Et là, en fait, c'était très très étrange. En fait, j'ai eu l'impression de piloter une grosse Iron. J'ai retrouvé ce caractère moteur bien présent, avec les bonnes vibrations qui va avec, le caractère aussi rageux du moteur quand on monte un peu. Et finalement, ce qui m'a le plus bluffé, c'est son agilité. C'était incroyable. J'avais l'impression de me retrouver sur un vélo, en fait. De retrouver cette agilité dès les 3-5 km/h, c'était assez taré. Et puis voilà, quoi. C'était très bizarre, cet essai. Je me suis arrêté un moment sur un parking pour la regarder et pour méditer là-dessus. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais, quoi? Qu'est-ce que je fais? Je sais profondément en moi que c'est celle-là, en fait. Ça a toujours été cette moto-là qu'il me fallait. Et je suis retourné à la concession et puis j'ai rien dit de spécial, j'ai pas fait de chèque d'acompte pour la bloquer ni rien, j'étais un peu paumé. Et finalement j'ai laissé passer encore des jours et une semaine, et là ça a été la pire semaine que j'ai vécue. J'étais en train de me rendre compte que j'étais en train de faire une connerie, qu'il fallait à tout prix que je l'achète, parce que sinon, il n'y en a pas des masses hein, sur le marché de l'occasion, ce style de machine. Je me suis dit c'est mort, faut vraiment que je l'achète, et sous l'impulsion de Marie, c'était parti quoi. J'ai acheté la bestiole, et j'ai failli ne pas la voir en fait, pas, hein, parce qu'il y avait deux autres personnes qui étaient dessus. J'étais le premier à dégainer le chèque, et même pendant que je l'avais mis de côté, j'avais fait la compte, il y avait encore du monde à vouloir l'acheter. Donc ça a été chaud, j'ai failli ne pas avoir cette machine, Et je pense que si j'avais pas eu l'impulsion de Marie, je pense que je m'en serais voulu, en fait, hein, jusqu'à que je retombe sur une occasion pareille. Et voilà, depuis fin juillet, je pilote en fait la moto de mes rêves, ce qui est assez irréel en fait. Voilà, c'est très particulier comme sentiment. J'étais quand même très attaché à l'Iron, donc ça a été un petit déchirement au début, voilà, pour m'en séparer. Mais bon, voilà, c'était en route vers de nouvelles aventures avec la grosse Dina. Et c'est encore avec beaucoup d'émotion que j'ai été la chercher donc à Kraken Motorcycle. Le premier tour de roue avec elle pour rentrer au bercail a été assez fou, en fait. C'est que j'avais un sourire affiché pendant tout le retour, et j'étais en train de rigoler comme un gros bonnet dans mon casque. J'étais en train de me dire, mais c'est n'importe quoi, et tout, cette moto, mais... En fait, il y avait tout ce que j'aimais. C'était ma plus grosse peur aussi, en me séparant de l'Iron, c'est de perdre son charme, son caractère moteur authentique. Mais au final, eh ben, je l'ai retrouvé avec la Switchback, hein, puisque c'est juste le modèle au-dessus, hein, finalement. Hein, d'une Sportster, on passe à une Dina. Et c'est tout simplement x2, finalement. C'est le moteur, c'est x2. C'est de 8,83, on passe à 1690 cm3, pour pas dire 1700. C'est un moteur bien, bien coupleux et bien rageux comme il faut. Et je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, en la poussant un petit peu en 3 et 4e. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi parce que on peut... rouler tranquillement avec pépère, on entend le moteur qui ronronne gentiment, voilà, avec le potato qui va bien, hein, puisqu'elle est équipée comme en Iron au final, hein, c'est la même chose, il y a le même, même équipement, hein, c'est stage 1, filtre à air, bon là c'est un filtre à air hypercharger avec clapet, un peu style Mad Max si vous voyez un peu le genre, et on a toujours la même catégorie de pots, hein, c'est des pots double sortie cette fois-ci, Vance & Heinz, qui vraiment reproduisent le charme américain du gros potato bien sourd, alors ici bien plus sourd et bien plus rauque que l'Iron. Et voilà, c'est ouf, avec une position de conduite, mais vraiment comme jamais j'ai eu jusqu'à présent. En plus de ça, l'ancien propriétaire l'avait upgradé de support GPS, bah, comme j'avais déjà sur l'Iron, mais aussi d'un pare-jambes avec repose-pied autoroute, qui était pour moi une première. Et j'ai traîné ça en faisant du Paimpol Rennes aller-retour, mais c'est n'importe quoi. Je crois que c'est la première fois dans ma vie de motard que je n'éprouve aucune fatigue en moto. C'est complètement hallucinant. Lorsque j'ai fait mon aller-retour Rennes-Paimpol, j'étais tellement frais que j'aurais même pu en refaire un autre, quoi. C'était hallucinant. Au bout d'un moment, sur l'Iron, j'avais toujours mal aux jambes, dû à la position. J'avais mal aux bras aussi, un peu au buste, parce qu'en fait, on affronte les éléments en bécane. Hein. Sur l'Iron, j'avais pas de protection, pas de pare-vent. Là, je l'avais mis pour la grande route, voilà, en switchback pour aller jusqu'à Rennes. Mais c'était ouf, quoi. Je ne ressentais aucune fatigue nulle part, ni aux fessiers, ni aux jambes, aux articulations, à la main, bras, rien, nada. C'est ouf. En fait, on est sur aucun point de pression, en fait, avec cette position de conduite. Comme on peut la changer, c'est-à-dire en basculant encore plus le buste vers l'arrière pour mettre ses pieds sur les calepiers autoroute, mais on n'a aucun gros point d'appui, en fait. On est en bascule en permanence, et c'est tellement agréable, c'est tellement détente. Et en fait, je pense que c'est ça le secret. Mais du coup, c'est aussi la première fois que sur une moto, j'ai plus envie de m'arrêter, quoi. Quand je pilote dessus, j'ai plus aucune envie de m'arrêter. Comme j'ai aucune fatigue dessus, et j'ai un plaisir de tous les instants, puisque le moteur, il est là, mais en permanence, hein, de 2, 3, 4 000 tours et plus. Enfin, c'est n'importe quoi. On a de la présence moteur à n'importe quel étage, en fait. C'est ouf. Par exemple, je ronronne tranquillement à 80 km/h en quatrième, et puis j'ai envie de dépasser, pouf, je rétrograde, et bam, il y a tout le couple, il est là après, il y en a à tous les étages, c'est vraiment hallucinant. En fait, ce qui m'a le plus coaché, c'est non seulement de n'avoir aucune fatigue au guidon, mais aussi de retrouver cette puissance que j'avais sur la 1250 Bandit, quoi. Mais c'est ouf, c'est vraiment ouf. Et en plus monstrueux, puisque là, alors les habits s'en obligent, hein, on a vraiment le moteur qui est bien grondant comme il faut, bien vibrant, et qui vous indique que là, vous montez bien dans les tours, et ça arrache, quoi. Ça arrache vraiment. Marie, qui était passagère derrière moi, elle s'est retrouvée vraiment mais plaquée au 6-6 bar, quoi, lorsqu'on avait un dépassement un peu musclé en quatrième. Et c'était génial, quoi. On retrouvait vraiment le côté vraiment puissant qu'on avait sur la Bandit. Mais là, en Harley, c'est assez fou, quoi. C'est vraiment taré. Donc voilà, j'avais vraiment envie d'en parler parce que c'est la première fois dans ma vie de motard que je retrouve ce truc, en fait. Que j'ai cette évidence, finalement. Je savais déjà en 2012, lorsque je regardais le catalogue Harley, je savais que c'était celle-là. Je savais pas quand, à quel moment je l'aurais, ni quand est-ce que je serais prêt à piloter ce style d'engin. Et là, le fait que ça arrive cette année, que ça arrive cet été, en plus pendant mes vacances, c'est complètement... je sais pas, c'est un peu lunaire pour moi. Pour moi, c'est encore irréel de l'avoir là, dans mon jardin, dans ma cour, là, sous mon carport, de la retirer la bâche et de voir qu'elle est là, c'est n'importe quoi. Ça c'est bizarre. Moi, c'est quelque chose que vraiment, s'il y a des motards qui m'écoutent, là, j'espère que ça vous arrivera un jour, ce sort d'évidence, en fait. Vous dire, pour moi, la moto, c'est quoi? C'est ça. C'est ce modèle de moto, c'est ça qui me correspond. Et franchement, je vous souhaite d'avoir ce sentiment parce que c'est très particulier. Moi, pendant des semaines, j'ai très très peu dormi. Depuis que j'ai vu cette switchback à l'atelier moto, j'ai très peu dormi, quoi, parce que je savais pas quoi faire. Et moi, comme je suis quelqu'un de beaucoup trop réfléchi et sage, j'ose jamais trop me faire plaisir, on va dire, de cette façon-là. Grâce à l'impulsion de Marie, oui, j'ai craqué, j'ai la switchback. Mais pendant tous ces jours et tout, je ne pensais qu'à cette moto. Je me suis dit, mais putain, qu'est-ce que je suis en train de faire? Il faut que je l'achète, c'est obligatoire, parce que je vais passer à côté de quelque chose. Et même depuis que je l'ai, là, ça va faire 2 semaines, je crois, que je l'ai. Et c'est dingue, quoi. Enfin, quand je me lève le matin, après, c'est normal, je travaille pas pour l'instant, puisque je suis en vacances, mais j'ai qu'une envie, c'est de remonter dessus et à vadrouiller, quoi. Je ne pense qu'à ça en ce moment. J'arrive même pas à me concentrer à faire un peu de jeux vidéo, des choses comme ça, même si je vais en parler un petit peu dans le Que fais-tu, à quoi joues-tu. Mon esprit, il est complètement omnibulé par cette machine. Bon, heureusement que c'est en train de diminuer un petit peu cet amour débile pour de la mécanique, pour cette machine. Mais heureusement que ça commence à diminuer un peu, mais les premiers temps, c'était, même quand je l'avais pas, c'était horrible, quoi. J'arrivais plus à me concentrer, à penser à autre chose. Et donc voilà, c'est un drôle de sentiment. Moi, j'espère vraiment que ça vous arrivera un jour. Cette sorte d'évidence de votre double mécanique. Mais je trouve ça génial. Donc voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. J'ai été assez, comment dire, j'ai vraiment, je me suis assez livré, hein, sur cet enregistrement. J'aime pas spécialement parler de moi. Là, j'ai parlé vraiment de moi en tant que motard, sur mes acquisitions, mes différentes motos, et un peu ce que pour moi est la moto. Maintenant vous avez la réponse, hein. Pour moi, c'est quoi la moto? C'est tout simplement de rouler en Harley Davidson sur une Dyna Switchback, une moto cruiser, mais aussi routière, GT, à loisir, à l'envi, parcourir des bornes, n'en plus finir, sans vouloir s'arrêter, et avoir un très très gros moteur avec du répondant quand il faut, et vraiment une position de conduite mais complètement hallucinante, quoi. On n'est jamais fatigué, quoi. C'est complètement taré. C'est vraiment ouf, cette moto. Donc voilà, allez, on va arrêter sur ce dossier pas que moto et Harley Davidson Switchback. On va terminer gentiment l'émission avec évidemment le Que fais-tu, à quoi joues-tu? que fais-tu, à quoi joues-tu? Bah du coup ça va être assez court, parce que le que fais-tu, bah comme je suis en vacances, je roule beaucoup. je roule beaucoup avec la Switchback. Et je regarde aussi pas mal de films. J'arrive pas à faire autre chose d'autre pour l'instant. En film, j'ai regardé tout un tas de trucs, j'ai regardé même pas mal de séries que j'avais déjà vues, j'ai revu les Sons of Anarchy, j'ai de nouveau continué, alors je m'étais arrêté à la saison 3 de The Boys, je l'ai terminé, c'est une série qui est complètement tarée aussi, de toute façon celle-là. J'aime beaucoup ce que fait Eric Kripke, j'aime bien son travail sur Supernatural, une série qu'il faudrait que je continue aussi. Qu'est-ce que j'ai regardé comme film? J'ai rattrapé mon retard sur certains films que j'avais pas pu voir. J'ai regardé le film Sonic avec Sonic, quoi. Avec Sonic en pelucheux, un peu chelou, qui parle beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Avec un Jim Carrey qui n'est pas très gros par rapport au vrai Dr. Robotnik. Je sais pas quoi penser de ce film. Je pense que j'ai aimé. Je pense que j'ai aimé. Mais après, ça m'a fait ni chaud ni froid, quoi. J'ai du mal avec ces côtés live action comme ça. Et puis le personnage de Sonic, c'est dans un film, c'est pas comme ça que je l'aurais voulu, quoi. Et bref, c'est un peu particulier. C'était une drôle d'expérience, franchement, une drôle d'expérience. Je me suis re-regardé encore une fois En eau trouble avec du Jason Statham qui défonce du Rockinou, du gros mégalodon. Pourquoi j'ai regardé ça encore une fois? Bah en fait, c'était pour me mettre d'aplomb pour aller voir la suite hier soir. Avec mon coop Manon, on allait voir en eau très trouble, c'est-à-dire The Meg 2, et puis on a bien rigolé, quoi. On a bien rigolé, malgré, je trouve, une première partie qui était un peu longuette, là, dans les fonds marins, dans la fosse. Par contre, après, la deuxième partie du film est vraiment, vraiment franchouillard. C'est vraiment assumé, quoi. C'est vraiment un film popcorn assumé, et ça fait du bien de voir des films comme ça au cinéma, éteindre son cerveau et puis se laisser porter par l'action débile qui se passe. J'ai trouvé ça très rafraîchissant. C'était vraiment cool. Donc voilà, en termes de films et tout. Après, j'ai lu un peu, j'ai... L'autre fois, en faisant mes courses à Carrefour, parce que j'aime bien faire mes courses à Carrefour, c'est un truc que je fais plus d'ailleurs, je suis allé zoner dans le rayon librairie, c'est-à-dire tous les magazines et trucs comme ça. Et c'était au moment où j'allais avoir la Switchback, je regardais un peu les magazines de moto, et je suis tombé sur un spécial 120 anniversaire pour les 120 ans d'Harley Davidson. Et je l'ai dévoré, mais en 3-4 jours, quoi, le bouquin. C'était vraiment génial, ça racontait toute l'histoire de cette marque légendaire. Et avec aussi un peu de pub pour les modèles un peu particuliers qu'ils ont fait pour cet anniversaire. Et vraiment, c'était plutôt cool. Moi, c'est un livre, un bouquin que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui sera avec ma dizaine d'autres livres de moto. Mais voilà, j'ai pas fait autre chose que ça, à part regarder des films et tout, et voilà. Sinon je rattrape, c'était pareil, c'était une saison que j'ai commencé, que j'ai pas eu le temps de continuer à regarder, c'est tout simplement les Doctor House, parce que j'aime beaucoup Hugh Laurie, j'aime bien aussi ce qu'il fait en termes musical. Donc voilà, je suis à la saison 5 pour l'instant de Doctor House, et puis on verra ensuite après, selon mes envies et mes humeurs. Question jeu vidéo, j'ai eu un soir où j'ai eu une envie de faire du beat'em up, et du coup je me suis fini deux jeux dans la soirée. Après j'ai pas beaucoup de mérite, des jeux sur lesquels j'avais bien avancé, j'ai enfin fini l'excellent, voire un des meilleurs beat'em up que j'ai joué en pixel art, Scott Pilgrim vs The World, The Game. Génial, quoi. Et puis la bande son, elle est complètement hallucinante. C'est vraiment excellent. En plus, j'ai eu l'impression de redécouvrir ce jeu puisque je l'ai refait. J'ai pas pu m'empêcher de refaire tous les niveaux, mais j'ai joué au casque et pour profiter de la musique, elle est vraiment géniale, quoi. Et j'ai terminé. Bon, il me restait 4 niveaux à faire. J'ai terminé les Tortues Ninja, la Revanche de Shredder. Ça, c'est pareil. C'est un excellent beat'em up, quoi. Assez classique, mais vraiment vraiment bon. Et voilà, je me suis tartiné comme ça de beat'em up dans la soirée. J'ai refait un peu de Maniteur, j'avais vendu la version Switch pour jouer à la version PS5, vraiment dans des conditions optimales, hein, avec le 60 images par seconde et les graphismes qui vont bien. J'ai recommencé de, parce que j'ai pas pu faire, il n'y a pas de cross-save, hein, donc j'ai recommencé le jeu, et puis finalement j'ai joué comme un gros cochon, je suis arrivé assez loin. Donc voilà à quoi je joue, j'ai un peu de Maniteur par-ci par-là. Comme notre ami Bruno National, j'ai replongé comme un connard dans SnowRunner, que j'ai recommencé depuis le début aussi, puisque j'y joue sur PS5. Il n'y a rien à dire sur SnowRunner, hein. Ça va être, je pense, c'est notre jeu doudou à tous les deux. L'autre fois, pour rigoler, j'avais envoyé un message à Bruno, je lui avais dit, tu vois, s'il y avait un seul jeu que je devais emmener sur une île déserte, je pense que ce serait SnowRunner. Et oui, on en a encore là, quoi, à faire du pot de camion de temps en temps. Donc voilà à quoi je joue. C'est assez sporadique en fait, finalement, mes sessions de jeux vidéo, j'ai pas spécialement d'envie. Je continue quand même The Sinking City certains matins. Avec notre détective Charles Reed, que j'aime bien, c'est un passage que j'aime beaucoup dans cet univers de Cthulhu. Certains soirs, j'essaie de continuer mon trucidage de zombies à Dead Island 2. Mais après l'été, moi je joue pas spécialement beaucoup aux jeux vidéo. J'ai plutôt envie d'être dehors et surtout à vadrouiller en moto, des choses comme ça. Ça va surtout revenir quand il fera pas beau dehors, parce que j'ai plein de jeux qui m'attendent. Il y a des jeux que j'ai envie de refaire. Il y a des Resident Evil que j'ai envie de refaire. J'ai envie de me refaire le Resident Evil 2, 3 et évidemment le 4 remake. De faire des seconds runs en mode hardcore, histoire de montrer un peu qui est le patron aussi quand même de temps en temps. Voilà. Et puis voilà un peu pour ce que fais-tu, à quoi joues-tu, les petits amis. J'espère que cette émission estivale un peu particulière vous a plu. Une émission qui sent la gomme brûlée, qui sent le moteur chaud. Pour des motards qui nous écoutent peut-être. D'ici là, je vous souhaite un bel été, les petits loups, et puis je vous fais des bisous. Allez, salut, salut!
Damn, I hate disco. Game over.